Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois services publics aux quatre coins de la France. Un hôpital, une mairie de secteur, un commissariat. Au CHU d'Amiens, d'abord, nous sommes dans l'ancien bâtiment, dit de la polyclinique médicale, avec deux patients qui ont hélas une excellente connaissance des lieux. Après plusieurs mois passés ici, ils savent quelle machine fait le meilleur café, que celle-ci ne rend pas la monnaie et qu'une autre est en panne de sucre. Ils passent une bonne partie de l'après-midi à discuter et à fumer des cigarettes à l'extérieur de l'hôpital. Pendant ce temps, Alexandre Schilling, adjoint à la propreté, au tri sélectif et à la lutte contre le bruit à la mairie du 6-8 de Marseille, a rendez-vous avec Jean-Marie Forte, membre d'un comité de quartier du 8e arrondissement. Ensemble, ils font le tour du quartier pour repérer les problèmes de nettoyage, de poubelles et d'encombrants. On a beau être dans un quartier le plus chic de la ville phocéenne, ces problèmes sont endémiques. Et notre élu, Alexandre Schilling, bien qu'il n'en soit pas directement responsable, est constamment sollicité à ce sujet qui est du ressort de la métropole et non pas de la ville. Quant aux cantonniers, sauf exception, ils ne sont pas rattachés à un quartier précis. Mais tout de suite, un petit retour en arrière au commissariat d'Auxerre. Nous sommes au mois de décembre, à la veille d'une manifestation des Gilets jaunes, en compagnie de Rudolf, agent au SDRT, le nouveau nom des renseignements généraux. D'habitude, une veille de manif, Rudolf sait auprès de qui s'informer pour préparer le terrain. Les interlocuteurs habituels, les représentants syndicaux, par exemple. Mais avec les Gilets jaunes, pas de référent, de contact et le risque que les choses lui échappent. C'est pourquoi Rudolf se rend à Avallon rencontrer la jeune femme qui a lancé le mouvement sur Facebook pour lui prodiguer quelques conseils et glaner quelques précieux renseignements. Où on apprend que les policiers sont parfois des Gilets jaunes comme les autres. Place de la République, c'est Pauline Mocor, Rémi Douat et Jeanne Robet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Police Secours, bonsoir. Allez, tout en haut, ça doit être par là.
Bah oui. La police.
Oui.
Bonjour.
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 Oh, et un troisième. Bonjour, oui. Ça va?
Oui.
Je vous ai déjà vu quelque part, je sais pas où, mais...
Ça peut.
Je suis souvent sur Avallon, donc... Oh, on peut se poser quelque part, 5 minutes?
Oui.
Bah asseyez-vous, restez pas debout si je m'assois tout seul. Ok, donc, comme je vous ai dit au téléphone, on vient pour la manif de demain, évidemment, savoir ce qui va se passer, et puis ce que vous allez faire, ce que nous on va faire, etc., tout simplement. Donc en fait, moi je travaille au service de renseignement, ce qu'on appelait avant les renseignements généraux, d'accord ? On est là dès qu'il y a une manifestation, une organisation, un truc, une assoce, hop, il y a un flic. On n'est pas là pour vous empêcher de manifester demain, juste... On est là pour vous servir d'intermédiaire avec la préfecture. Moi, je serai là demain. Donc, j'irai vous voir à 8h sur le point. Je naviguerai entre les points. Salut les gars, ça va? Comment ça se passe? S'il y a quoi que ce soit, je vous laisserai mon numéro. Vous me passez un coup de fil. S'il y en a qui partent en live, parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 dissidents dans votre groupe. Donc, ce qu'on va éviter, c'est les débiles comme ça qui viennent faire chier. Il faut s'attendre à 2-3 débiles. Qui s'ambiance, moi je fais une révolution, je bloque la route et je vous emmerde tous. S'il y a un truc comme ça, vous me passez un coup de fil, j'irai le prendre, hop, je le dégagerai, je le mettrai sur le côté. Ce qu'il faut, c'est que ça se passe bien. Puis voilà, puis roule. Hein. Pas de blocage total des routes pour les trucs de secours. Sachez que barrière de péage, j'ai vu que vous vouliez le faire, bon ça va être mal perçu. Non? Après, ce que vous pouvez faire, c'est manifester au péage. Ça, c'est pas interdit. Si vous ouvrez les barrières, c'est un coup à ce que les gendarmes descendent et vous virent. Après, ils vont pas vous virer méchamment, ils vont pas vous gazer, vous matraquer. Vous avez prévu une heure de fin ou c'est open bar?
18h, je pense que ça fait beaucoup. Hein. On va voir.
En sachant que les manifestants, c'est la classe moyenne de la population. Donc des gens normaux comme vous et moi, qui bossons, qui avons des mômes. Donc il y a le goûter à 4h. À 5h, il va faire nuit, il va faire froid. Demain, moins 1 degré le matin, 6 ou 7 degrés au plus chaud. Combien de temps les gens pourront piétiner dehors une fois qu'ils auront les pieds glacés? Après, moi je serai là tant que ça dure. Si ça dure 3 jours, je suis là 3 jours, hein, je m'en fous. J'ai des amis sur Avalon, ils m'hébergeront. Sur 180, s'il y en a 140 qui viennent, c'est bien. Plus les accompagnants, plus il y a peut-être, c'est le marché en plus le samedi. Donc ceux qui vont faire le marché, peut-être qu'ils vont trouver une cinquantaine d'adhérents en plus à la cause. Oui, mais moi je suis votre page, je suis dessus depuis que vous l'avez ouverte quasiment. C'est des gens normaux qui ont un ras-le-bol général, la preuve. Hein. Bon, vous acceptez tout le monde, vous m'avez accepté, mais...
Ah, mais j'accepte tout le monde.
Non, mais c'est même, mais pourquoi vous avez lancé le mouvement comme ça?
Parce que j'ai vu que quelqu'un à Paris l'avait fait, je me disais pourquoi vraiment, pas
quoi. Bah oui. Non, mais c'est bien d'avoir fait un truc à Avalon, c'est bien. Au moins, ça montre que les Avalonnais sont pas contents. Et puis voilà. En plus, le sous-préfet, c'est un mec en or. Il est super. Franchement, un sous-préfet comme ça, si vous pouvez le garder, gardez-le. Donc, il n'y aura aucun problème avec lui au niveau sous-préfecture. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Pourquoi? Parce que c'est sûr que quand on organise une manif, on est responsable de tout ce qui s'y passe. Donc, les gens ne déclarent pas leur manif parce qu'ils ont peur des représailles, tout simplement. Parce que suffirait qu'il y ait un mec bourré, défoncé, qui fasse une connerie, qui s'ambiance, qui branche un petit gendarme et qui se prenne un coup de matraque à travers la tête, ça va retomber sur l'organisateur. C'est toujours comme ça. Vous avez mon téléphone? Ouais. Je serai là, officiellement je serai un manifestant, il n'y a que vous qui me connaîtrez. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Et puis ça fait une personne en plus. Hein. Bah oui, hein. On est tous solidaires du mouvement, hein, flic ou pas flic, hein, ou gendarme, ou pompier, ou tout ce qu'on veut. Hein.
Voilà, tout le monde va y aller serein, c'est cool.
Et ça va bien se passer.
Bah ouais,
tout à fait. Si ça se passe mal, je sais que ça sera pas de votre faute, que ça sera un débile qui aura pété un câble, on va l'évincer, et puis voilà, c'est tout. Donc le petit jeune qu'on a vu tout à l'heure avec ses locks et son drapeau jamaïque là sur son pull, qu'est-ce qu'on peut en déduire en le voyant? C'est un fumeur de joint. Il avait tout le look du fumeur de joint, légèrement un petit peu l'odeur aussi. Il sentait un peu le cannabis. Par définition, il n'aime pas la police parce que les fumeurs de joint n'aiment pas les flics. Donc, mais là, il est parti avec un bon a priori. Voilà, il est tombé sur un flic sympa. Pour une fois, il nous a pas essayé de nous la mettre ou de nous avoir. Non, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de changer l'image de la police aux yeux de la population. On n'est pas que là pour les matraquer. Quand je suis parti de mon service, un chef de groupe a dit, Rudolf, c'est quelqu'un de très gentil, prêt à tout donner, même ce qu'il n'a pas. C'est gentil, j'ai trouvé ça gentil. Non, j'ai trouvé ça très bien, en fait. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Il n'y a pas de raison d'être con. Ça sert à rien de faire chier les gens. Là, quand on est arrivé chez la petite dame tout à l'heure à stresser tant qu'elle pouvait, on est reparti, elle était contente, elle était rassurée. Ah, on va se faire flasher, souriez. Même pas. Ah, si.
Et alors?
Bah, rien.
Vous allez...
Bah non, c'est une voiture de police, ils vont l'envoyer où? Bah non, on était pressés, c'est un cas d'urgence.
Fabien?
Il est pas là. Fabien?
De retour. Quoi, t'es bien?
Ouais. Bon, on est rassuré, pas de prise en otage de la sous-préf, pas de blocage de l'autoroute. Le mot d'ordre, c'est de pas y aller, mais on n'est pas à l'abri que de 3 dissidents y aillent. Les agriculteurs ne se joindront pas au mouvement. Mais après, on n'est pas à l'abri de mouvements individuels aussi. Ils stressaient un peu de voir un flic débouler chez eux, là, la petite dame là, qu'on a vue.
Normal.
Elle est, en fait, elle ne bosse pas à l'hôpital d'Avalon, elle bosse au centre d'imagerie de Tonnerre.
Ouais.
Donc elle a créé un mouvement parce qu'elle fait 100 bornes par jour, un plein par semaine, et là, c'est plus possible. Elle gagne 1400 balles par mois,
400 balles de plus de 400 balles d'essence, 400 balles de loyer. Elle a un môme.
Elle s'en sort difficilement.
Aucune orientation, c'est pas un mouvement politique. La petite nana a voté Marine au deuxième tour, mais c'était un vote d'opposition pour ne pas voter Macron. Mais comme a dit, elle aurait préféré que ce soit Sarko qui repasse. Elle aimait bien Sarko. Bon. Mich-mich ! Ils sont barrés, les filles, là ? Oh putain, je vais me les faire. Je vais me les faire.
Pourquoi ?
J'arrive, mon bureau est en bordel, ils ont foutu un radiateur dessus.
Combien de radiateur, ça ?
Putain, l'ordure, je vais le défoncer.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Ah, je vais gerber. Je vais le défoncer, je vais le défoncer. Oui, je suis gentil, mais mon collègue, je vais le défoncer. Il a piégé ma bouteille, il a mis tout autour du vernis amer pour les mômes qui se rongent les ongles. C'est dégueulasse.
C'est un goût dégoûtant et tout.
Non, mais on se fait des petits jeux comme ça entre nous, ça permet de maintenir la bonne ambiance, les bons résultats de travail, mais je vais le défoncer quand même.
Ce ne sont que quelques innocentes farces.
Putain, du scotch sous la tasse, je vais les défoncer. Donc, ils en aient mis du truc dégueulasse amer là, on boit ça. Ah, c'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Je me précipite sur ma bouteille pour boire un coup. Il y en avait aussi. Ils sont joueurs. Putain, je vais me les faire.
Bonjour.
Ouf, là, ça fait mal. Ça saigne pas. C'est juste cette manche-là, monsieur.
Ah oui.
Ouais, juste de ce côté-là. Bah oui, sinon je vais pas réussir à accéder à la perfusion. C'est un peu serré en plus, je pense. Voilà, regardez.
Oui, c'est un peu.
C'est parce qu'il me fallait le petit robinet ici. Mm. Voilà, regardez, c'est débouché.
Ah ben, c'est bien.
Vous voyez, on a réussi à relancer la perfusion.
Je vais sortir pour fumer, boire café.
Bah oui, hein. Quelle idée aussi de fumer. Regardez, je vous ai trouvé une blouse avec des manches. Comme ça, vous n'aurez pas de trop froid en descendant. Mmh. Hop, regardez. Là, vous enfilez la manche normalement. Voilà. Ça va aller ?
Ça va.
Allez.
Ça va, moi, viens moi.
Ça va, sinon ?
Ça va.
Non, ça va.
Bon travail.
Attention à la main.
C'est bon.
J'ai l'habitude. Oh là. Quelle vie.
Vous connaissez tout le monde, vous, ici?
Bah oui, je connais. Je reste un an ici. Un an et puis 8 mois encore. Moi, j'ai fait un accident. Moto. L'accident, c'était... On était un peu tac et puis... On a bu.
Vous aviez bu?
Donc ils m'ont ramené à l'hôpital Nord. J'ai perdu les jambes. Je n'arrivais pas à marcher. Ben oui.
Vous avez de quoi vivre?
Oui, j'ai la AH.
L'allocation adulte handicapé?
Voilà. J'habite au Pigeonnier, à la Tour de Guillemère, en face bureau tabac. Ça va là-bas, je suis bien. Tant que je peux sortir avec mon fauteuil et tout. Eh oui. Tant qu'on est en France, on est heureux. Moi, j'ai vu des pays arabes. Vous voyez les gens qui souffrent, vous pleurez.
Et vous, qu'est-ce que vous faisiez comme boulot avant?
Rien. Je faisais business. J'achète des habits, je vends, j'achète les pantalons, les chaussures, les baskets. Comme ça, et puis je vends. Puis maintenant, je suis heureux. Même la police, ils m'ont dit, ah, tu nous manques. Ça, c'est bien. Plus on vieillit, plus on...
Vous avez quel âge maintenant?
45.
Et ça vous manque, votre vie d'avant?
Ma santé, oui. Mais la police, ils cherchaient après moi tous les jours. Non. Ça, c'est pas mon style maintenant. Je suis bien comme ça. Je suis heureux comme ça. Moi, les dalles. Oui.
Pourquoi vous êtes venue, vous, madame?
J'ai fait un coma chez moi, d'une semaine,
et je me suis réveillée au bout d'une semaine. Donc je me suis retrouvée aux urgences. Des urgences, on m'a mis en pneumologie parce que j'ai des problèmes des poumons et de monoxyde de carbone dans le sang. Ça m'est arrivé en espèce de deux mois, deux fois une semaine chez moi, un coma de diabète de type 2.
Quel âge vous avez? Je ne vous ai pas demandé.
44 ans, Dalila. Là, je reprends un petit peu, comment on dit chez nous, du poil de la bête, un petit peu. Qui n'est pas facile, hein, très dur. Surtout quand on n'a pas de famille. J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne. J'ai une tutrice, bah, elle ne fait rien.
Elle a une tutelle.
Oui, une tutelle.
Ça fait un an, oui. Ça fait un an et je pensais qu'elle allait plus m'aider. On m'a donné dernièrement un bon de 20 euros. Qu'est-ce que voulez-vous faire avec 20 euros au jour d'aujourd'hui? Pas grand-chose, hein. Je touche l'allocation adulte handicapé.
Comme
moi. Elle est à 915 euros. Une fois que j'ai payé 590 euros de loyer, ben, il reste plus grand-chose. Une fois que j'ai déduit tout l'électricité et tout, j'ai pas 400 euros. Hein. J'ai quoi? 100 euros. Je suis une grande fumeuse. Où je choisis de fumer, où je choisis comment l'alimentation.
Et qu'est-ce que vous choisissez en général?
Bah moitié, moitié. Moitié dans les cigarettes, moitié dans l'alimentation. Moi, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, quand une dame dit qu'elle ne peut plus s'acheter un morceau de beurre, c'est honteux. C'est grave quand même. Vous allez en ville... On vous regarde de la tête aux pieds parce que vous êtes mal habillé. On ne peut pas nous laisser comme ça. C'est... Globalement, je mets tout ça dans un même sac et puis ça s'accumule, ça ne bouge pas. Aussi bien dans la justice. Il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres.
Qu'est-ce qui vous manque le plus à vous?
Qu'est-ce qui me manque le plus? Mes enfants. Ma liberté. Vous sortez de chez vous pour aller faire vos courses, on vous contrôle comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis maghrébine. Ils m'ont enlevé mes enfants et me les ont placés. Parce que je n'avais pas de logement à cette époque-là. Et ils disaient que je n'étais pas capable d'élever ma dernière fille qui a 5 ans aujourd'hui. Alors, les jumelles, je les vois encore, mes premières filles de 24 ans. Et la dernière, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. Il y a beaucoup de choses en France qui ne vont pas. Si je devrais retourner en arrière, je préférerais les années 90. J'avais un papa, une maman, j'ai perdu tôt mes parents. J'ai perdu mon papa qui n'a pas profité de sa retraite. Qui a travaillé dans les mines à charbon, dans le Nord. Ma maman était mère au foyer, elle a élevé ses 10 enfants. On m'a enlevé très jeune de mes parents pour me placer dans un foyer à Montpellier.
Pourquoi on vous a placé?
Parce que j'ai fait des conneries. J'ai fugué parmi sans doute copines et copains. Et voilà, je me suis retrouvée malheureusement derrière les barreaux. Très jeune, à 15 ans, j'ai fait de la prison. Je suis pas fière, c'est pas une référence pour moi. J'en avais marre de voir mes parents souffrir, à travailler. Si bien ma maman, j'ai volé pour survenir à mes besoins et aux besoins de mes parents. C'est honteux hein, d'en arriver là, mais je le dis haut et fort. Je l'acclame, mais je le crie haut et fort.
Chef, pouvez-vous m'en dire, bien sûr.
Yo, yo.
Merci Amida,
tout à l'heure. De rien ma chérie. Merci. Merci. C'est bon.
Merci.
Merci. Oh là 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 là.
Il fait meilleur. Hein.
Là il fait meilleur. Mais d'or il fait vraiment prêt.
Nous allons donner suite à votre appel.
Terry Six Sud, bonjour.
On est dans les hauteurs du 8e arrondissement de Marseille, un des coins les plus chics de la ville, et l'adjoint à la propreté du secteur, M. Schelling, a rendez-vous avec M. Fortes, un membre actif du comité de quartier. M. Fortes a préparé pour l'élu un parcours millimétré, et pendant 2 heures, les deux hommes vont pointer tous les problèmes de poubelle et tenter de trouver quelques solutions.
Là, ça me paraît évident. Bon, eh ben, il reçoit une amende, il la paye, et puis il termine.
Si vous me laissez le temps d'envoyer le mail, je vais peut-être y arriver. Alors en fait, je suis en train d'envoyer un mail à la police de propreté pour leur demander de faire un passage urgent ici, en leur envoyant la photo pour être sûr que le passage, on me dise pas, on n'a rien vu. Ce qu'on a trouvé, c'est un carton, voire des cartons, avec un nom dessus, qui sont jetés en pleine rue. Ça n'a absolument rien à faire. Vous êtes un particulier, vous avez des cartons, vous avez des points d'apport volontaires qui sont à peu près à 30 mètres. Et qui permettent de recycler les cartons. Donc il n'y a aucune excuse à le jeter comme ça.
Monsieur Schelling s'occupe du ramassage des ordures et du nettoiement. Et on fait le tour pour voir exactement là où on a des problèmes. On va descendre la rue Paradis. De la rue Paradis, on va prendre jusqu'au Prado. Et on remontera jusqu'à la mairie. Il y a des beaux immeubles. Regardez ces villas un peu anciennes, mais de très belles villas, cossues. C'est un quartier, disons, quand même plus ou moins bourgeois. Là, ici, vous avez le préfet de police qui habite ici. Et là, ici, à droite, vous avez le président de la région, M. Renaud Muselier. Et je crois que nous sommes le quartier dans Marseille qui payons le plus de taxes d'habitation et de foncier. Moi, je paye assez cher. Je paye 3500 euros de taxes d'habitation et 2000 et quelques euros de foncier pour 110 mètres carrés. Bon, il y a des problèmes récurrents, comme ici, c'est un problème récurrent. Il y a une cuvette de WC, un réservoir de WC, des cartons, et puis les containers sont pleins à ras-bord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de la rue, il n'y a pas un couvercle sur toutes celles qu'on a vues. Hein. Donc il faut savoir qui doit nettoyer.
Oui, mais la loi, elle est simple. La loi, elle est simple. C'est que le commerçant a l'obligation de nettoyer devant chez lui dans un périmètre de 30 mètres.
Eh bien, alors, à ce compte-là, faites appliquer la loi.
C'est ce qu'on fait. Bon. Encore une fois, c'est toujours le même débat. On ne va pas mettre un policier derrière chaque Marseillais, c'est impossible.
Là, on fait des tas, et puis après...
Là, c'est pas nettoyé, vous avez raison.
Voilà.
Non, mais on est bien d'accord.
C'est dommage, hein. Parce que c'est quand même... c'est une belle avenue de Marseille.
Hein. Salut, Jackie. Je voudrais savoir... Qui est en compétence pour nettoyer le parvis juste devant le portail, c'est-à-dire après le portail de l'école?
On est sur la rue, donc.
Ouais.
On n'est pas dans l'enceinte.
Non, exactement. Et je pense que c'est ville, je ne pense pas que ce soit métropole.
C'est la métropole.
Tu es sûr?
Voilà un exemple où on ne sait pas là qui fait quoi. Alors, il y a la mairie, la métropole, le département, la région.
Et des parcelles privées.
Et voilà. Avant, vous aviez la mairie, on s'adressait à la mairie. Donc, on ne sait plus...
C'est pas qu'on sache plus, c'est que vous avez des interlocuteurs divers. Et la difficulté, une partie de mon job, c'est d'arriver à identifier le bon interlocuteur. Alors, moi, je l'explique aux gens, comme ça, au moins, ils savent pourquoi c'est pas si simple, pourquoi les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Après, il faut identifier le bon interlocuteur pour avoir le bon service, logiquement. Nettoyer, ça l'est, mais manifestement, effectivement, pas assez. Et de mon point de vue, comme on est devant une école, ça doit être fait extrêmement régulièrement.
Bonjour et bienvenue au comité de quartier de Saint-Génier-Pras-de-Plage. Nous ne sommes pas disponibles actuellement pour vous répondre, mais laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons dès que possible. Merci, à bientôt.
Qu'est-ce que vous voulez boire? Je ne vais pas vous offrir un verre d'eau, quand même.
Ce que vous voulez, M. Fortes.
J'ai du Schweppes, du jus d'orange, un whisky, si vous voulez. Vous aimez les bons whisky? Un pur mal de 18 ans d'âge. Vous y mettez un glaçon? Vous l'aimez pur?
Ouais, un glaçon.
Goûtez-le, d'abord. Allez, à notre tour.
Allez.
Il fut fructueux.
On verra.
Et M. Schelling va nous régler tous les problèmes.
L'une des idées qui nous est venue, c'est qu'il fallait remettre plus de proximité. C'est d'arriver à fidéliser les cantonniers sur chacun des quartiers, parce qu'ils sont tous différents. Et parce que pour y arriver, et pour répondre à la demande spécifique de chacun des quartiers, il faut des gens qui connaissent. Alors nous, les élus, on est là, les élus de secteur, on sert à ça parce qu'on connaît globalement. Mais c'est certain que dans tout ce qu'on a vu dans cette tournée, il est évident que si on avait des cantonniers fidélisés, on pourrait essayer de comprendre pourquoi effectivement on a l'impression que telle partie de l'allée du Prado est faite, telle autre est moins faite. Et on le voit par exemple dans un quartier comme Vauban, qui est le quartier qui est en bas de Notre-Dame-de-la-Garde, où le cantonnier, on est arrivé à le fidéliser. Quand vous allez à l'Assemblée Générale du Comité d'intérêt de quartier, le cantonnier vient, et dans cette ville dont tout le monde nous parle de la propreté, eh bien le cantonnier est applaudi. L'adjoint à la propreté, moins. Non mais, pourquoi ? Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'il y a un vrai échange.
Il faut éduquer les jeunes. Vous avez vu en descendant l'école, le collège Monticelli. Il y a la poubelle qui est pendue, ils jettent tout à côté. C'est un collège UP, ça dépend ce qu'on appelle UP, mais enfin, dont les parents ont un certain standing. Disons que dans ce quartier-là, il y a à peu près 70% de gens qui payent les impôts. Dans le troisième, il n'y en a que 35-36%. Ouais. Donc c'est des gens qui ont les moyens et qui peuvent éduquer les gosses, mais non, c'est comme ça. Il faut croire plus à une intelligence collective qu'individuelle et donner le droit à l'erreur. Voilà. Moi, ça a toujours été mes principes dans la société. C'est bon, hein?
Ah ben, c'est 18 ans. Je ne l'avais pas goûté, mais je trouve qu'il...
Pas l'honneur de m'inviter à chaque fois.
Écoutez.
Place de la République, deuxième épisode de cette deuxième saison. C'était un reportage de Pauline Mocor, Rémi Douat et Jeanne Robet. Merci pour le commissariat Rudolf, Fabien, Nicolas, Kulizic, Thomas Boudot, commandant Crinquant, capitaine Olivier Dilulo, Annie et Jean-Louis. Merci pour l'hôpital d'Amiens, à Élise Grard, à Lucille Candela, à Mohamed et Lila. Et enfin pour la mairie du 6-8 à Marseille, à Alexandre Schilling, Jean-Marie Forte et Yves Morel, le maire en personne. Et c'est Cécile Lafont qui a réalisé cette émission.